Nous allons faire deux lectures ce matin. Une première dans le Premier Testament et une deuxième dans le Deuxième Testament. La première, c'est dans Jérémie, chapitre 31, versets 11 à 14. Donc c'est Jérémie, chapitre 31. Versets 11 à 14, la deuxième sera dans Tite, chapitre 2. Donc pour commencer, Jérémie 31, 11 à 14, nous pouvons lire ceci dans les Écritures. « Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile. » Les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Amen. Le deuxième passage dans Tite, chapitre 2, versets 1 à 6. Donc, l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, versets 1 à 6. Où nous lisons ceci dans les Saintes Écritures. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémé. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Amen. Dans la continuité du passage que nous avons lu pour débuter ce culte, nous voulons aujourd'hui aborder le thème de l'harmonie intergénérationnelle dans la famille et aujourd'hui en particulier dans l'Église, l'harmonie intergénérationnelle dans l'Église, l'harmonie intergénérationnelle, c'est l'harmonie entre les générations au sein de l'Église, au sein du peuple de Dieu. Voyez-vous, un des signes majeurs de la fin des temps, un des signes majeurs de la dégradation de notre société, c'est la rupture ou l'affrontement qu'il y a entre les générations. Nous voyons dans la Bible qu'un des signes que Dieu nous donne pour reconnaître que les temps sont mauvais, pour reconnaître que les temps vont de plus en plus à la dégradation du plan originel de Dieu, c'est qu'il y a rupture entre les tranches d'âge. Il y a rupture de dialogue entre les tranches d'âge. Les jeunes ne parlent plus aux vieux, les vieux ne parlent plus aux jeunes, les vieux ne considèrent pas les jeunes, où les jeunes ne considèrent pas les vieux, et de façon plus concrète, les parents ne s'entendent pas avec les enfants ne respectent pas les parents, les familles sont divisées dans leur génération. C'est un signe extrêmement fort de la fin des temps. Alors je sais que c'est tellement banalisé aujourd'hui qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est tellement sociétal, c'est tellement entré dans nos mœurs qu'on ne s'en rend même pas compte. Les conflits entre les générations, les conflits entre les âges sont un signe de la fin des temps. Les générations se disputent. Les jeunes ne savent pas s'entendre avec les vieux ne savent pas s'entendre avec les jeunes. Et ceci se remarque tant dans la famille qu'également dans l'Église. Et dans nombre d'églises, on remarque cette fracture qui oppose les différentes générations. Parfois même, on assiste dans les églises, c'est même pas rare, à une sorte de jeunisme. Alors, vous connaissez le jeunisme actuellement, on en parle dans le domaine du recrutement, dans différents domaines. Ça consiste à exalter la jeunesse et à rejeter les plus âgés. Et donc, le jeunisme consiste à considérer que tout ce qui est jeune est bon et tout ce qui est plus âgé est à mettre à la poubelle. Et on observe ça tant dans l'Église que dans les sociétés que dans les familles. Or, dans le plan de Dieu, les choses n'ont jamais été vues comme ça. Dans le plan de Dieu, les jeunes et les vieux sont appelés à vivre en harmonie. Dans le plan de Dieu, les jeunes et les vieux sont appelés à vivre dans la complémentarité et dans l'harmonie. Les jeunes et les vieux sont différents, ils ont des caractéristiques différentes, ils sont à un moment de la vie qui est différent, ils n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes fonctionnements, les mêmes habitudes, les mêmes caractéristiques, mais ils sont appelés à vivre en harmonie, ils sont appelés à vivre en coordination, à vivre en bonne entente. Ils sont appelés à vivre sans rupture, sans méfiance, sans affrontement, sans rejet, sans incompréhension. Et cela est vrai tant dans la famille que dans l'Église. Et on pourrait dire, dans l'Église, un signe de bénédiction d'une Église, c'est la capacité qu'ont les générations à vivre en bonne entente les unes avec les autres. Actuellement, on assiste, et ce n'est pas nécessairement quelque chose de volontiers, quelque chose de négatif, mais on assiste de plus en plus à un paysage évangélique dans lequel les églises se concentrent sur des tranches d'âge. Et donc, vous avez une des églises comme ça où vous rentrez, vous êtes surpris de vous dire, mais en fait, la moyenne d'âge dans ce lieu, c'est 25 ans. Il n'y a que des jeunes. Ce sont des églises remplies de jeunes à en craquer. Et vous ne trouvez pas un seul cheveu blanc. Et vous avez aussi l'inverse dans d'autres églises, un endroit où vous n'avez que des cheveux blancs. Et vous vous dites, mais où sont les jeunes ? Ça fait partie de ce qu'on doit considérer comme étant un problème dans le paysage évangélique. Nous l'avons dit, dans la famille, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants sont censés vivre en bonne harmonie. Dans l'Église, c'est exactement la même chose. Vous avez vu que le texte de Jérémie nous donne une réalité qui est importante. Alors, dans la version qu'on a utilisée, ça ne ressort pas très bien, mais vous connaissez de toute façon le verset dans d'autres versions. C'est un texte de Jérémie. Vous savez que Jérémie, comme Ésaïe, est un texte dans lequel, une prophétie dans laquelle il y a beaucoup de signes de bénédiction. Dieu montre comment il va restaurer son peuple. Vous avez été détruit, vous avez vécu plein de choses terribles, mais je vais vous restaurer et je vais vous reconstruire et je vais vous guérir. Et un des signes de la bénédiction du peuple de Dieu, dit le texte, c'est « jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Vous connaissez même le chant « Jeunes et vieux se réjouiront ».« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Ça, c'est un signe de bénédiction, quand les jeunes et les vieux peuvent se réjouir ensemble. Mais quand les jeunes sont obligés de se réjouir seulement entre eux en permanence et que les vieux ne peuvent se réjouir qu'entre eux, ce n'est pas un signe de bénédiction. Au contraire, dans une famille en bonne santé, les parents et les enfants se parlent. Dans une famille en bonne santé, les parents et les enfants peuvent agir et construire des choses ensemble, faire des projets ensemble. Dans une famille en bonne santé, chacun sait qu'il a une place particulière, les parents et les enfants ont des places particulières, mais ils peuvent fonctionner ensemble, dans l'harmonie. Et dans l'Église, c'est la même chose. Dans une Église en bonne santé, les jeunes et les vieux servent ensemble. Dans une Église en bonne santé, les jeunes et les vieux adorent ensemble. Dans une église en bonne santé, les jeunes et les vieux prient ensemble. Dans une église en bonne santé, les jeunes et les vieux œuvrent ensemble, ils se soutiennent mutuellement, ils s'aident mutuellement, ils se respectent mutuellement, ils s'aiment mutuellement. Ça, c'est le plan de Dieu. On pourrait dire que c'est aussi le défi de Dieu. Parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément quelque chose d'automatique. Mais ça doit être la visée, le but de toute communauté et le but de toute famille. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous parlent des caractéristiques de la Nouvelle Alliance. Mais il y a un texte que vous connaissez bien qui nous parle d'une caractéristique essentielle de la Nouvelle Alliance. C'est le texte de Galates 3, verset 28, qui nous dit ceci. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Vous connaissez ce fameux passage. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Cela signifie que l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est quelque chose de très important, qui nous semble tous évident, mais c'est important de resserrer ça dans notre tête, c'est que la croix de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, a un effet particulier, c'est que la croix de Jésus-Christ fait tomber toutes les barrières qui peuvent s'opposer entre les gens. La croix de Jésus-Christ, elle éteint la puissance des distinctions qu'il peut y avoir dans un groupe humain pour faire d'un groupe humain un seul corps dans lequel les distinctions n'ont plus d'agissement. Raison pour laquelle il nous est dit, par exemple, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors évidemment, le texte ne prétend pas que nous sommes tous des hommes ou tous des femmes ou tous des deux sexes, bien évidemment. Mais le texte est en train de dire que à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a plus de césure, il n'y a plus d'opposition entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, de la même façon, sont bénéficiaires du salut de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes peuvent ensemble adorer Dieu. Les hommes et les femmes peuvent ensemble bénéficier des grâces qui viennent de Dieu. Les hommes et les femmes, que tu sois homme, que tu sois femme, tu es pardonné, tu es justifié, tu peux t'adresser à Dieu, tu peux louer, tu peux l'adorer. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous égaux dans notre salut en Jésus-Christ. Le texte n'est pas en train de dire que les hommes et les femmes sont les mêmes, qu'ils doivent faire les mêmes choses. Mais il est en train de dire qu'il n'y a plus de distinction par rapport au salut, par rapport à la grâce de Dieu. Il n'y a plus de distinction entre les hommes et les femmes. Si je suis un homme, je ne suis pas plus sauvé qu'une femme. Si je suis une femme, je ne suis pas moins sauvé qu'un homme. Nous sommes tous égaux, pardonnés et enfants de Dieu à égalité. De la même façon, il n'y a plus ni juif ni grec. Que tu sois juif, que tu sois grec, quand tu es en Jésus, tu es juste un enfant de Dieu. Tu n'es pas plus parce que tu es juif, tu n'es pas moins parce que tu es grec, tu es un enfant de Dieu et tu as ta place dans le peuple de Dieu. Vous êtes tous un en Jésus. Ça veut dire que l'œuvre de Christ dans le peuple de Dieu, elle éteint les distinctions de sexe, elle éteint aussi les distinctions de race, d'ethnie. Dans le peuple de Dieu, il n'y a plus de place pour la distinction entre les Arabes et les Hongrois, de distinction entre les gens qui viennent d'Asie et les gens qui viennent d'Afrique. Il n'y a plus tout ça. Dans le peuple de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu et nous sommes tous égaux devant Dieu, égaux dans notre salut. Quelle que soit la langue qui est la nôtre, quelle que soit l'ethnie qui est la nôtre, quelle que soit notre culture, une fois que nous sommes sauvés, nous faisons tous un. Et nous n'avons plus le droit de mettre les gens dans des cases en fonction de leur appartenance ou de leur origine sociale ou ethnique. De la même façon, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, dans le peuple de Dieu, elle éteint toutes les distinctions de statut. Dans le peuple de Dieu, quel que soit notre statut social, nous sommes tous égaux. Que nous soyons un grand physicien dans son laboratoire qui crée des nouvelles machines et tout ça, ou que nous soyons quelqu'un qui écrit des poésies, que nous soyons peintres, que nous soyons ouvriers, que nous soyons informaticiens, que nous soyons un grand docteur en sociologie, quel que soit ce que nous sommes tous égaux. Et nous avons tous la même place, le même rang devant Dieu, ce qui signifie que nous avons tous aussi le même rang les uns par rapport aux autres. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni grec ni libre, il n'y a plus ni ouvrier ni employé, vous êtes tous égaux. Et vous êtes tous enfants de Dieu, chacun pour sa part. De la même façon, il n'y a plus en Jésus-Christ, il ne doit plus y avoir de barrière entre les jeunes et les vieux. Entre les moins âgés, les plus âgés, ceux qui sont entre les deux âges, il ne doit plus y avoir de distinction, quel que soit ce que nous ne sommes pas plus importants parce que nous sommes vieux ou parce que nous sommes jeunes. Nous sommes tous égaux, sauvés de la même façon, enfants de Dieu de la même façon. C'est la raison pour laquelle Dieu veut utiliser chacun de nous, quel que soit notre âge, notre position, pour son royaume. Vous connaissez aussi ce passage bien connu qui est rappelé dans Actes. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc, dans les derniers temps, je vais utiliser, dit Dieu, autant les jeunes que les vieux. Je vais donner des visions à certains, je vais donner des songes aux autres, je vais donner des dons spirituels aux uns et aux autres. Et autant que vous êtes, quelle que soit votre position, quel que soit votre âge, je vais vous utiliser pour le peuple de Dieu. Vous voyez, ça c'est un signe de bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu que de voir dans le peuple de Dieu que Dieu utilise toutes sortes de personnes à tous âges pour se glorifier, pour faire son œuvre. Dieu annonce qu'il va répandre son esprit avec abondance sur toute chair, sur les jeunes et sur les vieux. Et nous voyons que toutes les générations vont être appelées à croître et à faire grandir le peuple de Dieu. Nous comprenons donc deux choses. Premièrement, Dieu utilise les jeunes et les vieux, mais aussi Dieu va les utiliser de façon différente. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont différents, c'est aussi pour que Dieu les utilise différemment, pour que Dieu puisse faire des choses différentes avec les uns et les autres. Et chacun à sa façon, chacun avec sa sensibilité, va être utilisé par Dieu pour l'avancement de son royaume. Dieu va utiliser les jeunes et les vieux pour atteindre les âmes perdues. Il est évident qu'un quarantenaire ne pourra pas facilement atteindre les gens de 20 ans, par exemple. Ben c'est évident, si vous avez 45 ans et que vous devez aller évangéliser les jeunes qui sont à l'allée verte en train de regarder les nuages passer, ben oui, ça se fait. Mais bon, il faut trouver le vocabulaire, il faut voir comment les... Alors que si vous avez vous-même 25 ans, vous allez leur parler, ça va peut-être un peu mieux passer. De la même façon, si vous voulez aller évangéliser au home pas loin d'ici, et que vous avez 18 ans, que vous êtes tout excité en ayant bu plein de Red Bull, ça risque d'être plus compliqué que si vous êtes vous-même une personne âgée qui comprend le langage. Vous allez pouvoir dire hein, « tu as vu le dernier magazine de La Redoute ?» Ben oui, parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est La Redoute. Comment ça s'appelle le magasin là où on vend des trucs pour Damar. Ah. Mais allez demander à Nicolas ce que c'est Damar, il n'en sait rien. Il s'en fiche de ce que c'est Damar. Donc en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de ce qu'on connaît dans la vie, en fonction du parcours que l'on a, on va être capable de parler à certains et de s'adresser à d'autres. Dieu va utiliser chaque manière de s'exprimer pour se glorifier. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est très très important, c'est que dans notre monde aujourd'hui, souvent nous pensons l'évangélisation pour tous ceux qui sont dans certaines tranches d'âge. Alors c'est vrai qu'on pense des moyens de louer Dieu, des moyens de partager la bonne nouvelle, mais très souvent, on ne s'en rend pas compte, on produit souvent des manières de louer ou de partager la bonne nouvelle qui sont souvent pour les jeunes. Mais on oublie qu'il y a dans nos rues plein de gens de 70, 80 ans qui sont dans leur rocking chair en train d'éplucher des oranges et qui eux aussi ont besoin de manières pour entendre parler de Jésus-Christ. Qui eux aussi, et qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre parce qu'ils ne sortent pas dans la rue autant que les autres, mais qui ont aussi besoin d'entendre parler de Jésus. Dieu veut utiliser autant les jeunes que les vieux pour reconstruire des choses brisées. Il va utiliser autant le slam d'un jeune de 20 ans. Si vous ne savez pas ce que c'est un slam, ce n'est pas grave. C'est que vous faites partie des vieux. Voilà. Comme ça, si vous étiez là, un slam, je ne vois pas trop. Ça va, vous êtes vieux. Voilà. il va utiliser tant le slam du jeune de 20 ans que la grande poésie articulée du savant de 75 ans qui a utilisé des mots que personne ne comprend. Il va les utiliser autant l'un que l'autre pour se glorifier. Vous voyez même qu'actuellement, même en politique, c'est quelque chose qu'on a compris. Actuellement, si vous regardez les nouvelles compositions du gouvernement, vous avez des gouvernements qui sont très, très intergénérationnels. On fait attention de mettre des jeunes ministres avec des plus âgés, des ministres qui ont déjà été ministres et ceux qui n'ont pas encore été. On essaye, parce qu'on se rend compte que c'est ça la société. C'est ça la société, c'est ça l'Église aussi. C'est ça la famille aussi. C'est différentes générations qui se rencontrent. Quand vous lisez la Bible, vous voyez à plusieurs reprises que Dieu utilise autant des jeunes que des vieux. Vous voyez Joseph, qui était tout jeune lorsqu'il a commencé à avoir une influence en Égypte. Mais voyez Samuel, qui a commencé tout jeune et qui a fini très très vieux. Regardez David, qui a commencé jeune, qui a fini vieux. Regardez Moïse, qui a commencé plus tard dans sa vie. Dieu utilise vraiment tous les âges pour se glorifier, à leur façon. Et nous voyons dans la Bible que Dieu met une emphase à insister sur les complémentarités qu'il doit y avoir nécessairement entre les jeunes et les vieux. Si vous lisez par exemple Proverbe 20-29, vous lisez par exemple « La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Ça signifie que les jeunes apportent quelque chose, ils apportent leur force. Ils apportent leur force physique, ils apportent leurs idées, ils apportent leur créativité, ils apportent leur énergie. Et les vieux apportent leur expérience. Ils apportent la sagesse. Ils apportent le poids des années. Ils apportent le « attention, ça va mal tourner ça ». Les jeunes apportent leurs connaissances actuelles, ils apportent leurs réseaux sociaux, ils apportent leurs connaissances d'intelligence artificielle, ils apportent les dernières choses qu'ils ont découvertes dans le monde. Et les vieux apportent leurs relations, leurs connaissances du monde, leurs connaissances de l'histoire. Les jeunes apportent leur enthousiasme. Ils sont comme des petites piles électriques. Et les vieux apportent la sagesse et la structure. L'ordre, le cadre. Dieu a donné la force aux jeunes, il a donné la sagesse aux vieux. Ça ne veut, veut pas dire qu'effectivement on ne peut pas être jeune et sage. Ça veut dire que le poids des années donne une expérience. Ça veut dire que le poids des années forge un caractère, forge une capacité à voir les choses. Oui, nous devons considérer qu'en tant que famille individuelle, qu'en tant que famille de Dieu, notre force, elle est dans la capacité d'unir nos générations. Et non pas de regarder certains en chien de faïence, en se disant soit « Oh là là, ces jeunes, en tout cas, il faudrait vraiment qu'ils se calment parce qu'ils sont vraiment nulle part. » Ou alors en disant « Ces vieux, vivement qu'ils soient partis et qu'on soit tranquille. » C'est dans l'union des générations que la gloire de Dieu se manifeste. Alors nous avons différentes instructions qui nous sont données. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur deux instructions qui sont données. Une première instruction biblique qui est donnée aux jeunes et une autre instruction biblique qui est donnée aux vieux, aux plus âgés, si vous voulez. Plus âgés, c'est 50 ans, hein, déjà, vous êtes... Ah oui, jeune, c'est jusque 40. Après, vous êtes dans la sauce, et puis vous êtes vraiment dans le dessus de la sauce, là où il y a les haricots. Voilà. Une instruction qui est donnée aux jeunes. Et je sais bien que c'est extrêmement peu connu, ou en tout cas très peu mise en pratique. L'instruction qui est donnée aux jeunes, qu'on trouve dans différents textes de la Bible, il est donné comme instruction aux jeunes d'honorer les personnes âgées. Lévitique 19, 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. » C'est marrant, ça. Hein, il termine, « Tu craindras ton Dieu. » En d'autres termes, respecter Dieu, c'est honorer la personne âgée. On ne peut pas dire qu'on respecte Dieu si on ne respecte pas les personnes âgées. Une marque d'un jeune qui craint Dieu, c'est qu'il respecte les personnes âgées. Pas seulement dans l'Église, mais dans la vie en général. Mais c'est terrible de voir dans un milieu de travail, dans des contextes comme ça de vie, dans le bus, à quel point les jeunes peuvent être méprisants envers les personnes âgées. Tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu. Tu veux respecter Dieu, tu veux honorer Dieu, eh bien respecte la personne âgée. C'est ça, honorer Dieu. Tu honoreras celui qui est plus âgé que toi, tu honoreras celui qui a une plus longue expérience de vie que toi, tu honoreras celui qui a bataillé avec la vie, tu honoreras celui qui a glorifié Dieu toute sa vie, tu l'honoreras. Tu auras du respect pour lui. Tu le respecteras. Et dans la Bible, le manque de respect des jeunes envers les aînés est un signe du jugement de Dieu. Il faut le savoir, c'est un signe du jugement de Dieu. Ça ne doit jamais nous faire rire, jamais. Et dans nos familles aussi, lorsque nous voyons les jeunes qui se moquent des... Ça ne doit jamais nous faire rire, c'est un signe du jugement de Dieu. La bénédiction de Dieu repose là où il y a un respect des plus jeunes envers les plus âgés. Vous connaissez évidemment ce passage, on en a déjà parlé énormément, et encore une fois, c'est un signe de la fin des temps. Dans la fin des temps, les jeunes seront rebelles à leurs parents, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est un signe d'incrédulité, c'est un signe de jugement de Dieu. Les jeunes sont appelés à respecter les plus âgés, et bien plus. Et c'est vrai, quel que soit là où on en est dans la vie, hein, les jeunes sont appelés à voir dans les plus âgés une mine d'or. Les jeunes sont appelés à voir dans les plus âgés des gens qui ont quelque chose à leur apprendre, à leur dire, à leur transmettre, à leur véhiculer. Ils sont appelés à voir en eux quelqu'un en qui ils peuvent trouver le conseil, la sagesse, l'intelligence, l'expérience, la réflexion, de se dire « tiens, une personne âgée, ça a du prix pour moi. Hein, » vous connaissez maintenant, ça se fait de plus en plus, les jeunes qui vivent en cote avec des personnes âgées et du coup qui apprennent et qui passent du temps. « Raconte-moi un peu ta vie, raconte-moi un peu comment ça se passait, raconte-moi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, tu vois ?» Le jeune est appelé à voir dans le vieux quelqu'un en qui il peut trouver de la valeur, à le respecter et à recevoir de lui quelque chose. Et ensuite, une instruction pour les jeunes, cette fois-ci, pour les vieux. Dans le texte de Tite que nous avons lu, vous l'avez vu, nous voyons que les aînés ont une mission, c'est d'être des modèles. Dans la famille, ça semble évident, on ne devrait même pas le répéter. Mais dans tout autre contexte, et là c'est le cadre de l'Église, dans tout autre contexte, les plus âgés sont appelés par Dieu à jouer un rôle de modèle vis-à-vis des autres. C'est aussi quelque chose qui est parfois oublié. Si tu es plus âgé, tu ne peux pas te prévaloir de ta carte d'identité ou de tes cheveux blancs pour obtenir le respect, l'honneur, la considération des plus jeunes. Faudrait-il encore que tu puisses montrer par ton attitude et ton comportement ce que c'est d'être plus âgé? Faudrait-il encore que tu puisses donner un exemple de droiture, un exemple d'amour, un exemple de marche avec Dieu, un exemple de bonté? Les aînés sont appelés à être des modèles. Et nous ne devons pas mépriser la puissance d'être un bon modèle. Être un modèle en tant qu'aîné, dans notre vie, dans notre sérieux, dans la marche avec Dieu, dans notre ponctualité, être un modèle dans notre façon de traiter les autres. Très souvent, pas ici, dans les autres églises, il y a aussi des personnes âgées qui sont méprisées par les jeunes parce qu'elles ne donnent pas un bon modèle. Et quand on les voit, on voit juste des petites boules d'aigreur, d'acidité, de colère. Et du coup, les jeunes, effectivement, ne voient que dans les vieux des vieux râleurs, des vieux casse-pieds. Plutôt que d'être des modèles. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, c'est pas grave. Si j'ai déjà dit, c'est pas grave. À l'enterrement de Jacqueline, j'ai vu une sœur de l'église de Ransard. Tu la connais, Francis, je te dirai après qui c'est. Juste toi et moi, parce que les autres n'ont pas besoin de savoir. C'est nos petits secrets. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vue. Et je lui dis, ce qui est vrai, je lui dis, mais en tout cas, ton église a vraiment une bénédiction de t'avoir, ce qui est très vrai. Et elle dit oui, elle répond, et puis elle me dit oui, c'est vrai, mais il y a une chose, hein, et c'est le secret pour moi, c'est que je suis toujours émerveillé par le Seigneur. C'est que je suis toujours émerveillé par le Seigneur. 84 ans, toujours émerveillé par le Seigneur. Elle voit toujours Dieu comme étant beau, grand, magnifique, digne de gloire, digne d'adoration. Elle est émerveillée par Dieu. Ça, c'est l'exemple que doivent donner les personnes âgées. L'exemple de gens qui ont marché avec Dieu, mais pour qui Dieu n'est pas devenu une petite histoire qu'on lit pour bien s'endormir, une petite mon petit Dieu. Mais qui reste, des personnes âgées émerveillées par Dieu, qui l'aiment de tout leur cœur, qui le servent, qui veulent le connaître. Parce qu'on peut avoir 85 ans et dire encore « je veux le connaître ». Eh bien, ça, c'est l'exemple que les personnes âgées doivent donner aux plus jeunes. Ils doivent leur donner envie de Dieu, envie de la présence de Dieu, envie de la vie. Même chose, vous connaissez toujours ces personnes plus âgées, pas vieux, mais personnes plus âgées, qui sont toujours en train de casser les pieds aux jeunes. « Ah, et toi, quand est-ce que tu vas te marier alors ?» Le rôle d'une personne âgée, d'un couple âgé, c'est pas de demander aux jeunes quand ils vont se marier, c'est de leur donner envie. Donne envie plutôt que de casser les pieds aux gens. Tenez-vous la main, faites-vous des petits bisous. Et comme ça, un jeune de 25 ans va se dire, mais tiens, on peut encore s'aimer après tant d'années. Et ça, c'est un modèle qui parle. Alors, voyez, Dieu est très équilibré. Il ne dit pas, les jeunes, c'est à vous de tout faire, vous devez respecter. Il dit, les jeunes, respectez. Mais il dit, les plus âgés, soyez des modèles. Et si chacun joue son rôle, vous pourrez vivre en bonne harmonie, vous pourrez vivre en bonne coordination. Alors, ce matin, c'était pour l'Église. Dans l'Église, Dieu nous appelle à vivre en bonne harmonie entre jeunes et vieux et à nous réjouir de la présence des uns et des autres. C'est triste, une Église qu'avec des jeunes. C'est triste. Mais c'est triste, une Église qu'avec des vieux aussi. L'Église parfaite, c'est l'Église avec plusieurs générations et plusieurs cultures. Ça, c'est le peuple de Dieu. Des gens de tout âge, toute langue, ils sont là tous ensemble et ils se plaisent ensemble. Que Dieu nous aide tous, que nous soyons jeunes ou vieux, à voir l'important de cette complémentarité. Très souvent, nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas que les secrets sont là. En fait, vous savez que Dieu donne déjà tout, tout est là parfois. Mais parfois, Dieu a mis l'idée dont tu as besoin dans le cœur, la tête de quelqu'un d'autre. Mais tant que tu la méprises, cette personne-là, « Oh, mais c'est un vieux, de toute façon, il ne sait pas quoi, il est déjà... » Tu ne lui demandes pas d'avis. Et du coup, tu te prives de ce qu'il a dans sa tête et dans son cœur. Même chose quand tu es vieux, que tu dis, « Ah oui, il faudrait vraiment qu'on fasse ça. » De toute façon, les jeunes, ils sont complètement déconnectés, ils ne savent pas quoi. Tu te prives d'aller trouver ce que Dieu a mis dans son cœur. Mais lorsque tout le monde se respecte, quand tout le monde s'aime, quand tout le monde voit, ah ben ok, c'est un jeune, c'est un vieux, on est ensemble, on est heureux d'être ensemble, les vieux parlent aux jeunes, les jeunes parlent aux vieux, alors là, la richesse de Dieu peut se manifester et sa gloire aussi peut se manifester. Alors que Dieu nous aide à vivre cette harmonie entre les générations, dans l'Église en général et dans notre Église également. Amen.